Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Alicia, bienvenue dans votre émission Page à page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités. Dominique Delpirou, bonjour.
Bonjour.
Et puis Jeff Curval, bonjour.
Bonjour.
Alors il y aurait dû y en avoir un troisième. Il y aurait dû y avoir J.O., le dessinateur du livre dont on va parler. Mais il ne vient pas, il préfère dessiner.
Il est parti manifester en Chine.
Ah voilà, oui. Bon, ben il a raison. Il faut, c'est d'actualité. Donc, on parlera donc des deux livres que vous avez, donc Dominique Delpirou a écrit, Jeff Curval a raconté les histoires et puis J.O. les a illustrées. C'est Sale Gosse et Les Enfants de la Mêlée. On en parle dans un instant. Après, comme d'habitude, quelques petites infos. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que samedi 19 avril, à partir de 16h au Grand Auditorium au Red Jardin de la médiathèque José Cabanis, vous aurez le plaisir de découvrir un conte dans le noir. Alors c'est ouvert à tous, hein, des voyants, les malvoyants, les non-voyants. Pour les voyants, il y aura des bandeaux pour qu'ils soient dans les mêmes conditions que les autres, que ceux qui ne voient pas ou peu. Et donc c'est un conte inuit, un conte qui nous vient du froid, qui dure à environ une heure. Et donc n'hésitez pas à emmener également vos enfants, puisque ce sont les vacances scolaires. Et je vous rappelle que l'entrée est libre et gratuite. Donc c'est une initiative qui, à mon avis, est intéressante. Donc n'hésitez pas à y aller samedi 19 avril à 16h à la médiathèque José Cabanis. Et puis à la médiathèque José Cabanis également, le mercredi, il y a l'heure du conte. C'est à 11h pour les petits de 3 à 5 ans et pour les plus grands à partir de 5 ans, c'est à 16h. Et c'est au Red Jardin de la médiathèque, au Piccolo Teatro. Et l'accès est libre et gratuit là aussi. Je vous donne un numéro de téléphone, 05 62 27 64 91. Ensuite, à la librairie Priva, qui est toujours rue des Arts, 14 rue des Arts à Toulouse, le jeudi 24 avril, c'est-à-dire jeudi prochain à 18h, une rencontre avec Anne Gavalda pour son dernier roman qui s'intitule La Consolante, qui est édité aux éditions La Dilettante. Et puis je termine ces infos avec, je vous le rappelle, on avait reçu les comédiens et les créateurs d'ailleurs du théâtre du Fil à Plomb, qui s'appelle Abderrazek Mamedi et Badradine Regieg. Eh bien, il joue toujours la pièce écrite par Majid Cherfi qui s'appelle Vice de forme. Il la joue jusqu'au 17 mai au théâtre du Fil à Plomb qui se situe 30 rue de la Chaîne dans le quartier Arnaud-Bernard. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est du mardi au samedi, je vous donne à 21h, je vous donne le téléphone pour les réservations 05 62 30 99 77 05 62 30 99 77.
Page à page, Claire Ambil.
Et maintenant, je me tourne vers mes deux invités. Alors, je vais faire un jeu de tête entre Dominique à ma gauche et Jeff à ma droite. Alors, on va parler donc de ces deux livres, intitulés Sale Gosse aux éditions RS, qui est paru en 2005. Et puis, Les Enfants de la Mêlée, qui est plus récent, 2007, l'année dernière, pareil, aux mêmes éditions, aux éditions RS également. Alors, ce sont deux livres à trois, enfin à six mains, on va dire même. Hein,
parce que bon, non, il faut bien ça, oui.
Il faut bien ça. Donc, en fait, on va parler déjà du conteur, de celui qui a vécu les histoires, c'est Jeff.
Voilà.
Alors, Jeff, il est éducateur spécialisé.
Il est éducateur spécialisé, il s'est occupé pendant 40 ans de jeunes en difficulté.
Voilà, et il a créé aussi la sauvegarde 31.
Il a créé avec des amis, dont Dominique Delpirou, la sauvegarde de l'enfance 31 près du tribunal pour enfants de Toulouse, qui tentait d'aider des enfants du département de la Haute-Garonne.
Les enfants, donc, en grande difficulté familiale.
Difficulté familiale, sociale, et puis à la limite de la délinquance. On appelait ça à l'époque borderline.
Ah, d'accord. Voilà.
Incasables, des gosses incasables, des gosses pénibles qui étaient plus ou moins rejetés des collèges, lycées publics ou privés et qui arrivaient à un moment ou un autre devant le tribunal, le juge pour enfants.
Voilà. D'accord.
Et pour pour apprivoiser, tel est le mot qui convient, ces ados, garçons et filles, il y avait mon équipe, nous avons essayé de trouver des jeux, des terrains d'aventure un petit peu particuliers pour les étonner, les surprendre. En particulier l'écriture, les ateliers d'écriture avec un garçon qui s'appelle toujours Bruno Ruiz, qui est un poète toulousain connu. Ateliers musicaux, ateliers théâtre. Voilà, par exemple, avant de partir en retraite, j'ai eu la chance, avec 30 adolescents de Toulouse, de partir en caravane, tout le mois de juillet, dans le Lauragais, où nous avons présenté une pièce de théâtre, revue et corrigée par les ados, Roméo et Juliette, qui a eu vraiment un grand succès.
Un grand succès.
Et nous étions comme les saltimbanques d'autrefois, on campait tous les soirs, on changeait de village, et ces gamins, pendant ce temps, étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, ils ne faisaient pas de bêtises.
Et voilà. Eux, ça les motivait, ça leur donnait un but, et puis voilà. C'était eux qui le faisaient, voilà, ça leur donnait une responsabilité aussi.
Tout à fait. Et puis ils prenaient beaucoup de plaisir. Je terminerai en disant que l'important pour ces ados, hier comme aujourd'hui, peut-être, et certainement demain, c'est de laisser à ces enfants du temps de jeu. Comme on parle en rugby, du temps de jeu. Je crois qu'aujourd'hui, plus qu'autrefois, les enfants, les ados, n'ont pas le temps de. Il y a tellement de challenges en termes de familial, en termes de scolarité, qu'il n'y a plus le temps du délire, du jeu.
Puis ils ont trop d'occupations, peut-être aussi.
Voilà. On leur demande des performances.
Oui.
C'est vrai.
Puis bon, maintenant, il y a peut-être la technologie aussi qui a fait qu'ils sont peut-être moins ouverts à des jeux simples, hein, comme on le voit dans les livres. Bon, il n'y a pas que le rugby, mais bon...
Aujourd'hui, il y a Internet. Hein.
Voilà, donc ils passent leur temps devant des écrans, soit d'ordinateur, soit de télévision. Et bon, ben, forcément, ce n'est pas tout à fait pareil que d'aller à la campagne, taper dans un ballon, je ne sais pas.
Voilà. Oui, enfin, je crois qu'Internet, ce n'est pas le sujet, mais je crois qu'Internet, quand même, c'est un outil important de communication.
Oui.
Parce que contrairement à ce que disent certains pédagogues, c'est pas un repli sur soi-même, mais c'est l'ouverture vers d'autres, mais c'est très dangereux. Et bien sûr, comme partout dans la société, il faudrait qu'il y ait des garde-fous, il n'y en a pas trop actuellement.
Oui, voilà, bon. C'est comme tout, il faut savoir doser les choses. Un peu, mais pas trop. Oui, en fait, tout est une histoire de recettes, avec des dosages exacts pour chaque chose. Dominique, alors vous, Dominique, journaliste à La Dépêche, ça n'a pas changé, auteur de romans policiers, on s'était vu l'année dernière pour le labyrinthe des légumes.
Et j'espère qu'on se reverra là...
En septembre.
En septembre pour Légionnaire Victor.
Légionnaire Victor, voilà, qui sort en septembre, voilà. Donc chez...
Les Cahiers du Sud.
Les Cahiers du Sud. Et donc un roman policier également, toujours.
Absolument.
Voilà, et donc... toi, tu as écrit les histoires. Alors, Jeff a raconté toutes ces histoires d'éducateurs spécialisés. Enfin, toutes, je ne sais pas, mais enfin, bon, il y en a, hein, il y en a 30 dans Les Enfants de la Mêlée et une quarantaine et une quarantaine dans Sale Gosse. Ouais. Hein, donc ça
Del Piro Censeur. Voilà.
Alors, ah, oui. L'histoire, pour être tout à fait complet, l'histoire commence parce que. La personne qui vit avec moi depuis une trentaine d'années, quand elle était petite, a bien connu Jeff, qui s'est occupé d'elle merveilleusement. Et donc, pour moi, Jeff, c'est un petit peu quelqu'un de ma famille. Et il y a presque une vingtaine d'années de ça, un soir, on était en train de préparer Sauvegarde 31, donc il y avait quelques petits moments de flottement, d'ajustement, où on se voyait assez régulièrement. Et un soir, Jeff me raconte une de ses histoires. Et on l'écoute.
Tu te rappelles laquelle c'était ?
Ah non, je me souviens plus laquelle c'était. Mais on l'écoute bouche bée. Et ma compagne me dit, mais toi qui écris, Dominique, tu devrais raconter, tu devrais l'écrire, cette histoire. Alors je dis, bah tiens, banco, j'écris l'histoire. Et puis, j'ai écrit cette histoire, je l'ai écrite.
Fallait pas lui dire deux fois, hein, Dominique. Hein.
Et on a eu l'idée, bah, tiens, on va en raconter une deuxième, et puis une troisième. Et puis, il s'est installé entre nous une sorte de petit rite. Jeff venait me voir une fois par semaine.
Il préparait son épouse préférée.
Et il me racontait une histoire. Et moi, pendant la semaine, j'écrivais l'histoire. Et voilà, comme ça, on a tricoté une trentaine. Voilà. Et ça se passe dans les années 90. Et puis, ces histoires, on en sauvegarde 31, on les laisse dans un placard, on les oublie.
Dans un tiroir, comme on dit.
Voilà. Ah. Et c'est au moment où Jeff a vu se profiler l'horizon de la retraite qu'il a dit, quand même, il faudrait peut-être s'en occuper. Et donc, on a ressorti ces histoires du tiroir. Et un troisième larron qui s'appelle Gio, qui lui aussi fait partie de notre petite famille, c'est un ami intime, et c'est un garçon d'un immense talent et d'une très très grande sensibilité. On lui dit, écoute, tu pourrais peut-être nous faire la couverture, un dessin pour la couverture. Alors il dit, ouais, peut-être. Oh, puis tu pourrais faire un dessin pour une ou deux des histoires. Et il a fait, bon, d'accord. Et finalement, il a fait 40 dessins.
Ben oui, oui.
Et
oui.
40 dessins, dont il faut dire que chacun des dessins de J.O. est une entrée de plus dans l'histoire, et une histoire dans l'histoire. Il a de l'humour, et il a la sensibilité particulière qui lui a permis de vraiment de mettre en lumière ces histoires, de leur apporter un nouvel éclairage, et quelque chose d'à la fois ironique, tragique et grandiose. Voilà.
Oh oui, non, c'est très bien illustré, effectivement. Bon, pour la petite histoire, bon, Sale Gosse, le premier livre qui est paru donc en 2005, c'est ma fille de 16 ans qui l'a lu intégralement. Alors elle qui n'avait pas lu un livre depuis plus d'un an, c'est elle qui a décidé de le lire. Je l'avais laissé sur la table du salon. Je lui ai dit, tiens, si tu as envie de lire, tu as celui-ci. Et je lui ai raconté un petit peu ce que c'était. Et elle m'a dit, bon, bah tiens, oui, je le prends. Et puis, bah, en fait, j'ai revu le livre il y a peu de temps parce qu'elle l'avait vraiment dévoré, elle l'avait gardé dans sa chambre, elle a lu toutes les histoires et elle m'a dit que voilà les dessins, elle avait beaucoup apprécié également les dessins. Bon, bah, J.O. est dessinateur notamment à l'Écho des Savanes, Phosphore, L'Express,
tout à fait, oui.
Donc voilà, et donc elle a beaucoup, beaucoup aimé toutes les histoires, quoi. Et oui, donc pour en revenir à votre... Donc c'est comme ça que ça a donné Sale Gosse, donc en 2005.
Voilà, ça a donné Sale
Gosse. Il a fallu attendre 2005 pour...
Voilà, 2005, on s'est réveillé.
Pour trouver un éditeur, déjà, peut-être.
Quatrième larron qui n'est pas là, c'est Rémi Puello, avec qui je travaillais.
Psychanalyste,
très connu à Toulouse. Séduit par ses histoires. Nous a aidé à trouver, nous a mis en contact avec RS, les éditions RS, qui ont eu la sympathie, je dirais, de nous faire confiance et puis de jouer le jeu sur les deux bouquins.
Ah bah,
donc, merci RS.
C'est un succès.
Alors,
ouais,
RS est une maison d'édition très sérieuse qui publie d'habitude des ouvrages d'universitaires sur le travail social, sur
la pédagogie.
Ce sont des livres très austères. Et là, ça a été un petit peu leur cours de récré, quoi.
Oui, mais bon, quelque part, ça, bon, pédagogie, ça se rejoint un peu parce que éducateur spécialisé, bon, bah,
oui,
en plus,
peu,
bon,
oui.
Jeff a l'air d'être un éducateur spécialisé très engagé. On peut pas être autrement, je pense. C'est un choix
spécialisé en rien du tout. Quand
non,
même.
Mais éducateur, je veux dire, c'est on est.
Il
faut être motivé.
Très spécial, en
fait. Faut être motivé. Faut avoir vraiment. Faut y croire.
Oui,
donc, sinon,
tout,
on le fait
vous,
pas.
Comme vous,
oui,
comme vous faites de la radio,
oui, c'est
vous
sûr,
êtes motivé.
Mais là, il s'agit aussi de l'avenir d'enfants, d'avenir d'adolescents. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, de très très fort, quoi, très non
oui, enfin, oui très fort, oui, enfin je
mais si si
oui, oui, bon.
si bon,
voilà. Bon, on est deux à dire si
d'accord.
si donc
non, je veux dire, comme tous les éducateurs qui prennent ce job, éducateur spécialisé, c'est effectivement un peu moins de souffrance pour des enfants. Et puis il y a tellement d'handicaps. Moi, j'étais un peu spécialisé, je dirais, en prédélinquance, délinquance cas sociaux. Mais il ne faut pas oublier tous les
oui, il y a aussi tous les enfants
professionnels,
handicapés.
Voilà.
Tout à fait, oui, oui. Non, mais je dis, voilà, il faut être engagé. Il faut vraiment
oui,
y croire.
Il
faut vraiment s'y mettre à fond. Et puis avoir
non,
c'est
Jeff
une vocation, moi, je dis.
Fond, il a toujours vécu son métier avec beaucoup de passion.
Oui,
et,
mais ça
voilà.
se sent,
et beaucoup d'humanité. Et il n'a jamais fait les choses à moitié.
Mais ça se sent dans les... Dans les histoires.
Et alors donc, quand même, pour revenir à ces gamins,
oui.
Il y a ces bouquins, c'est vrai qu'il faut, qu'on dirait, il ne s'agit pas de dire des mots à ces enfants, parce qu'ils en ont trop entendu, mais faire avec. Et je dirais que le job, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent faire ce métier, éducateur spécialisé, il faut avoir envie de faire avec, pas de dire, mais de faire. Aussi bien faire la vaisselle, que nettoyer les fesses d'un gamin, apprendre à faire la soupe à une maman qui n'a jamais... vu que des briques, et faire avec et les surprendre dans ces causes. Leur dire, tiens, on va partager un petit moment ensemble. Alors moi, c'est effectivement la musique, un peu le théâtre et le rugby, et d'autres vont prendre d'autres, comment dirais-je, pardon, d'autres outils pédagogiques, comme la terre, comme la photo,
mécanique.
La mécanique, etc.
Voilà. Oui, des ateliers concrets. Il y a concret, faut du concret.
Je crois que
voilà.
Les enfants ont besoin.
L'abstrait,
de...
ça,
ce que je vous disais tout à l'heure au début de l'entretien, ce côté ludique qui manque vraiment à ces gosses. Et même aujourd'hui, je me rappelle quelques histoires. La gosse qui, dans sa le gosse, cache sa maman qui est complètement ivre morte sous le lit avec un bébé. Ça se passe d'ailleurs près d'ici. Un 15 août, cette gosse, eh bien, à 12 ans, elle gérait l'alcoolisme de sa mère. Je dirais l'alimentation d'un bébé qui avait 3-4 mois. Bon, le côté ludique était très loin. Voilà. Enfin, donc je reviens toujours là-dessus.
Ouais. Oui, mais toutes les histoires, sans que ça soit dans Sale Gosse ou dans Les Enfants de la Mêlée, il y a des histoires très, très dures, quoi, très poignantes. Elles ne se finissent pas toutes bien, malheureusement.
Hein, malheureusement. Oui.
Sur autant d'enfants que vous avez rencontrés, il y en a qui n'ont malheureusement pas.
Et puis il y en a qui se terminent très mal pour moi aussi. Parce que c'est des échecs retentissants.
La déception de votre ami, d'un ami rugbyman. Ça m'a marqué, ça aussi. Oui, voilà, le copain rugbyman, oui. C'est un peu un échec de votre mission.
C'est un échec de communication. Et puis, j'ai pas vu. C'est vrai que 30 ans après, quand je reçois cette lettre de cet enfant qui a aujourd'hui 45 ans et qui me dit « t'as rien compris », et que je remonte le film, c'est une catastrophe. Et je pense que c'est là certainement le quotidien pour beaucoup d'enfants. Aujourd'hui encore dans la dépêche du midi.
Pour expliquer peut-être à nos auditeurs cette histoire en deux mots, c'est que tu t'es occupé d'une jeune fille et tu ne t'es pas rendu compte qu'elle était victime d'abus sexuels par son père.
Voilà. Oui.
Alors qu'elle t'avait envoyé quelques petits signaux, pense-t-elle, et ces signaux-là. Mais je crois qu'il faut le replacer aussi dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ces signaux-là, ils étaient très difficiles à déceler, alors que maintenant, on est peut-être beaucoup plus sensibilisé
à ces
choses.
Oui, tout à fait. Maintenant, dès qu'on voit
les... Je pense qu'aujourd'hui, ça n'aurait échappé
dessus,
à personne.
Quoi, oui.
Puisque même encore hier soir, ma petite fille de 12 ans, ma fille de 12 ans me dit « Papa, si tu me touches et si tu me tapes, je fais le 119.
» Oui, voilà. En plus, voilà, les enfants sont plus armés actuellement. Voilà. Oui, après, ça peut déborder aussi sur d'autres... Bon, c'est un autre débat,
oui,
voilà.
C'est un autre débat.
Mais bon, puis vous étiez jeune éducateur à l'époque aussi, donc vous n'étiez peut-être pas assez armé pour...
Certes, mais enfin,
aussi,
j'observe quand même que les enfants, en souffrance, vont lancer, je dirais, une alerte une fois, parfois deux fois, jamais trois.
Ah oui, ça veut
dire... Ils vont rester dans leur monde et de souffrance, quoi, par rapport aux adultes, hein. Voilà, donc c'est un détail que je fais
donc
passer
voilà, ouais,
avec Dominique, avec humour, mais c'est quand même quelque chose d'important au niveau pédagogique et surtout pour les parents. Attention, lorsqu'un gamin, un ado vous parle, c'est rarement gratuit, même sur le ton de la plaisanterie.
Oui, parce qu'en général, les ados, ils sont un peu repliés sur eux-mêmes, donc ils parlent pas trop. Donc quand ils quand ils se livrent un peu, il faut vraiment être à l'écoute, sinon on risque de louper quelque chose.
L'histoire que nous relatons d'un papa rugbyman aussi, qui a été obligé d'aller vivre à l'hôtel parce qu'il avait été viré carrément par son fils et ses copains de son appartement.
Ah oui, voilà. L'enfant roi, dictateur.
L'enfant roi, par exemple, nous essayons avec Domi d'en remettre une couche en termes de... dire non à un ado, c'est lui dire je t'aime.
Lui fixer des limites.
Voilà, tout à fait. Parce qu'ils sont toujours dans la transgression. Et c'est vrai que c'est pas jubilatoire, mais il y a quelque chose de... Hein ? Vous en savez quelque chose ? La transgression.
Mais oui, bien sûr.
Voilà.
Mais bon, on laisse parler Dominique un peu. Il veut dire quelque chose, Dominique, par rapport à ce que dit Jeff. Non, mais c'est très animé dans le studio. Les auditeurs ne le voient pas, mais bon, voilà, ça fonctionne bien, tous les trois, là. Donc, Dominique.
Oui, ce sont des histoires qui sont difficiles à digérer, même pour moi.
Toi, tu les as écrites, donc
voilà,
en fait,
donc en plus, tu as retranscrit
ce qu'avait raconté oralement Jeff.
Voilà, c'est ça. Et ce sont des histoires qui sont parfois difficiles à digérer. Donc, il faut que moi je les digère et pour les rendre digestes au lecteur. Et c'est vrai ce qu'il disait tout à l'heure. Il y a certaines histoires, non, j'ai pas pu, quoi, parce que c'était trop dur, parce que c'était trop affreux, parce que c'était je me sentais pas de répercuter ça, donc j'ai fait l'éponge et puis j'ai mis mon choix. Je les ai oubliés, alors voilà. Alors, simplement, peut-être une autre précision, c'est que donc le premier livre est un peu généraliste.
Le second, deuxième, Les Enfants de la Mêlée,
s'appelle Les Enfants de la Mêlée parce que c'est
On parle de rugby.
La Coupe du Monde de rugby l'année dernière a échauffé l'esprit de notre ami Jeff, il l'a pas dit assez, mais qui vit depuis qu'il est tout petit avec le rugby, qui adore ce sport. Et qui a trouvé dans le rugby
une médiation pédagogique pour ces jeunes.
Qu'est-ce que vous parlez bien ?
Mais non, mais c'était dans le livre.
C'est vrai que le rugby est un sport merveilleux où on peut défouler son agressivité, où on peut la contrôler. C'est un sport collectif où on se fait des amis. C'est un sport où on respecte l'adversaire.
Voilà, il y a des règles.
Et donc, c'est vrai qu'il y avait vraiment de quoi faire tout un livre autour de la pédagogie et le rugby. Et en ce sens-là, c'est intéressant et ça tombait bien. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est à côté de ces histoires où on décortique comment le rugby a pu à un moment donné intervenir dans la vie de chacun de ses enfants. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand Jeff nous raconte les anecdotes
autour du castre olympique
quand il était petit. Il y a des trucs très mignons.
Jeff au mitard, il s'est retrouvé au mitard.
Il y a des trucs très rigolos.
Voilà. Le tatouage de l'asticot, moi, j'ai bien aimé.
Le tatouage de l'asticot, oui. C'est quelque chose.
Ah ben,
quand monsieur est dans
oui.
de bonnes dispositions, c'est ça, comme disait le regretté Pierre Dac.
Voilà.
Il y en a des rigolotes. Bon, il y en a évidemment des tragiques, comme Camilou, l'oiseau noyé. Moi, ça m'a beaucoup marqué.
Camilou, oui.
Mais Camilou, voilà. Bon, puis il y en a des tendres, comme Ficelle. Mmh. Avec les mères gitanes là qui récupèrent leur
qui vont galoper un sabot.
Voilà. Bertrand qui va voir sa maman avec la complicité de Jeff vers la rue Bayard.
Voilà.
Et puis mémé. J'ai beaucoup aimé la mémé.
Le sucre.
Oui, tous des enfants qui se sont mis à apporter des choses
à la mémé
de l'un des enfants.
C'était soufflé. Alors, je profite quand même pour rendre hommage aux instituteurs. C'était dans les années 55, 10 ans après la guerre. On a fait, nous avons 10, 11 ans. Et c'est vrai que l'instituteur que nous avions nous imposait tous les jeudis, puisqu'à l'époque, le jeudi, c'était vacances.
Et oui,
de rendre visite à des personnes âgées et qui étaient, au niveau économique, très limite. Hein. Voilà de quoi, le départ de l'histoire. Et
d'accord.
Donc, ce jour-là, donc. Un gamin a dans son sac le kilo de sucre pour la mémé que nous devons aller voir. Ça se passe dans un vestiaire de rugby.
Et donc il y a un
on joue avec la douche,
il
y a un accident, le sucre tombe et ce gosse m'a pleuré.
C'était dramatique.
Ce copain s'est pleuré, c'est dramatique. Mmh. Et une semaine après, sans qu'il y ait concertation, tous nous sommes cru obligés d'amener quelque chose en plus
à cette mamie.
C'est le rugby, mais ça s'est passé dans un vestiaire de rugby, le gars. Mais au départ, il y a toute une pédagogie.
Le rugby, c'est... Voilà,
et
c'est
déjà, penser aux autres. Je veux dire que même cet instituteur, avec l'éducateur de rugby, nous disait, penser aux autres, penser aux gens qui ont besoin peut-être un petit peu de votre sourire. Parce que je me souviens... Veuillez m'excuser. La première fois que je suis rentré dans l'appartement de cette mamie, quand elle a vu une dizaine de gamins...
Ah oui, ça a dû...
Quelle joie. Voilà.
Elle était surprise,
au-delà du sucre, il y avait ces sourires de ces gamins. Et on n'a pas fait de bêtises, comme à l'époque, il y avait Pim-Pam-Poum.
Oui,
vous rappelez, enfin, ça vous dit quelque chose.
Oui.
On n'a pas fait Pim-Pam-Poum. Des gosses sympas, voilà.
C'est 50 ans après, on a du mal à réaliser qu'effectivement, un kilo de sucre, c'était quelque chose de fondamental. Quoi.
Oui.
Je crois que...
maintenant, ça paraît banal.
On voit à quel point
nos
mentalités ont pu évoluer à une vitesse grand V. Je sais pas pourquoi, mais on reparle de cette histoire de kilo de sucre. Et aujourd'hui, ça fait dans ma tête un court-circuit avec ce qui se passe dans tous les pays subsahariens où effectivement, les gens sont en train de crever de faim à cause de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Et voilà, il faut se souvenir que nos parents, ou nos, même pas, enfin, je veux dire, la génération qui est juste avant nous, puisque Jeff n'est pas si vieux que ça, malgré tout.
Ben non.
Voilà, dans les années 50.
Merci Dominique.
Dans les années 50, un kilo de sucre, c'était quelque chose d'important, et qu'en 1940, un verre de lait, c'était quelque chose de capital.
C'est vrai.
Et j'ai une expression qui m'a beaucoup plu, on en a parlé hors antenne avec Jeff tout à l'heure, que je ne connaissais pas, donc en plus j'ai appris quelque chose. Il n'avait pas breveté la paille à tuter les grillons. Alors ça veut dire que le garçon était un peu limité, on va dire, mais enfin je trouve que c'est une expression magnifique pour dire quelque chose, pas forcément.
Par exemple, il n'est pas là, c'est pas la. Enfin, je pense à J.O., bien sûr, puisque J.O. a été dans le Lot, Il est loto à JO. Et quand il était gamin, je crois qu'il a été second au concours du meilleur tuteur de crayon du Lot. Hein, on peut le dire, ça.
Mais c'est dommage, je ne suis pas occitanophone, mais je crois que ça se dit en occitan. Il y a une expression pour dire tuter les grillons en occitan.
Oui, ah, tu t'en souviens ?
Pas du tout.
Bon, zut alors. Et puis là, je n'ai pas le spécialiste d'occitan sous...
Baïten total à la Bigne. Ça veut dire « va tuter à la vigne ».
Va tuter à la vigne, ah d'accord.
Va tuter à la vigne, va tuter tout à la vigne.
Yavol.
Non, je vous en prie, non.
En tout cas, enfin, ces deux livres, que ce soit « Salmôme » ou « Les enfants de la mêlée », moi je les recommande vraiment, vraiment, même aux ados, hein, puisque bon, ma fille de 16 ans a dévoré « Salmôme ».
Pas plus tôt.
Non, pas plus tôt, quoi, parce qu'il y en a qui sont durs, quand même, avec les incestes, la maltraitance, bon, et les morts de certains, hein, des fins tragiques pour certains enfants. Donc voilà, pas avant 16 ans, mais vraiment, c'est vraiment, Jeff me fait passer un petit dessin.
Ce qui est très radiophonique, les dessins
de
Gio à la radio.
Non, parce que j'explique aux auditeurs, parce qu'ils doivent sentir que je souris et tout. Mais bon, il y a une raison, mais je peux pas montrer parce que bon, on a la radio et c'est pas visuel. Mais voilà. Et non, c'est vraiment deux livres que je recommande vraiment aux adultes et aussi aux ados. Et puis vraiment, on en ressort. Enfin, on en garde quelque chose. Ce sont des histoires qui nous touchent. Et puis. On en garde forcément quelque chose, ça fait forcément réfléchir.
Merci.
Merci.
Vous comptez faire autre chose, encore d'autres histoires, Jeff, dans votre...
Moi, j'ai à peu près terminé le troisième.
Ah oui ?
On a déterminé, la couleur sera rouge. Puisque
non, mais c'est vrai ou pas ? Parce que bon, je me tourne vers Dominique, parce que bon, il est plus sérieux, lui. Alors, est-ce que c'est vrai, Dominique ?
Je vais lui en parler à la fin de l'émission.
Ah bon, d'accord, oui, d'accord. Mais bon, s'il y en a un troisième, pourquoi pas, j'imagine qu'il y a encore plein de...
Les tribulations d'un directeur.
Ah, plus, voilà, pour la partie...
Les tribulations d'un directeur, les conflits de l'entreprise, les joies et les peines des syndicalistes, des choses comme ça.
Ça sera moins l'éducateur qui parle, ce sera plus le directeur
quelque part,
du centre.
Aussi pédagogique.
Eh bien, pourquoi pas. Et avec Dominique comme
sans Dominique, c'est pas possible.
Et Gio qui va illustrer aussi, pareil. Bon, ben, vous reviendrez alors. Et puis là, j'espère qu'il y aura Gio, peut-être.
C'est le vœu que je formule.
Bon, Dominique, en tout cas, nous, on se reverra en septembre pour Légionnaire Victor au Cahier du Sud.
D'accord.
Un roman policier, un peu de la même veine que Labyrinthe des légumes, non, pas vraiment.
Ah non, différent du Labyrinthe des légumes, puisque Légionnaire Victor, en fait, le premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Félix Rex, mettait en scène une jeune inspectrice de police qui s'appelle Camille Forestier. Et quand Félix Rex est sorti, beaucoup de gens m'ont dit quand même, cette Camille, on aimerait bien la revoir un jour. Et effectivement, elle réapparaît pour une nouvelle enquête. Voilà. Et donc, c'est une enquête qui commence. Alors, elle a vieilli entre-temps.
Comme tout le monde, il faut bien aussi, quand même.
Elle est mère de famille. Mais alors, elle tombe sur une... Elle a une enquête tout à fait surprenante parce qu'on a retrouvé dans une maison absolument close un cadavre, un squelette absolument parfait. Et donc, on ne sait pas comment cette personne s'est retrouvée à l'état de squelette.
Bon, alors, on en saura plus en septembre, quand tu viendras nous présenter ce livre. On se quitte avec un petit air de stade, hein, pour un petit clin d'œil au rugby, Jeff, hein, puisque voilà. Et voilà. C'est les Pistons Flingueurs. C'est ça ? C'est bien ça ? Oui, c'est ça, c'est les Pistons Flingueurs pour faire plaisir à Jeff. Donc on se quitte, la semaine prochaine je recevrai François Vermel qui a écrit un album jeunesse qui s'appelle Godefroy, le roi des petits pois, aux éditions du Griffon Bleu. Et en attendant, merci à Jeff, merci à Dominique d'être venu.
Merci Claire.
J'ai passé une très bonne demi-heure.
À très bientôt Claire.
Avec vous. À Diciats, à la semaine prochaine.
Employé façon fictif, pas de façon fictif, à la mairie de Paris.